Les radios.
Non.
Les plus rebelles de la radio.
Ce qu'on aurait voulu, c'est que les mecs comprennent que leur place n'était pas là. Que dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, c'est sans cravate, il marche avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, non. Je ne vais me battre pour changer tout ça. Je ne vais me battre pour changer tout ça.
Et bonsoir, il est 19h04, vous êtes à l'écoute du Canus Info du lundi 11 décembre et ce soir on va vous parler de tout un tas de choses.
Alors oui, on va donc à l'international vous lire le communiqué du collectif Anticra. Au national, on parlera ensuite de la loi immigration et on aura une interview sur la mobilisation des lycées pro. Et au local,
on va vous parler de la fête des Lumières contre l'industrie du béton avant un peu de parler plutôt des questions d'hébergement avec à la fois la lecture d'un communiqué d'un collectif qu'on a déjà accueilli ici qui occupe le CCVA et puis l'interview d'une militante du collectif Hébergement en danger. Mais tout de suite, on commence par le changement de métro du jour.
Et oui, pour commencer, une séquence émotion. Nous tenions à rendre hommage à un monument de Lyon dont le nom résonnera dans nos mémoires. Il s'agit de la gare de Vaise qui va tristement perdre son titre pour se voir affublée de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais il va bien falloir le faire, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc en effet, Bruno Bernard, président de la métropole, a annoncé aujourd'hui que la gare de Vaise allait être rebaptisée, attention, gare de Vaise Gérard Collomb, en l'honneur du célèbre homme politique lyonnais parti trop tard. Cela aurait été dommage d'oublier ce grand homme qui a su traverser de long en large tout l'échiquier politique, de la gauche à la droite, à l'extrême droite, traquer avec ferveur les sans-papiers, les squatteuses, les travailleuses du sexe, à qui l'on doit l'expulsion de la ZAD Notre-Dame-des-Landes, le projet de loi Asile et Immigration de 2019 qui allonge la durée de rétention en CRA de 45 à 90 jours, et on en passe, liste non exhaustive bien sûr, n'hésitez pas à compléter avec l'article Gérard Collomb, mort d'une ordure sur rébellion. Au passage, il a pu vendre toute la ville de Lyon à ses potes promoteurs, se distinguer par ses pratiques de corruption, de détournement d'argent public et d'emplois fictifs. Vraiment, ça aurait été dommage qu'un monument pareil n'ait pas un monument à son nom. Et puis gare de Vaise, c'est vrai, c'était pas très clair comme appellation. On rappelle que la mort n'implique ni oubli ni pardon pour Gérard, comme pour les autres. Donc n'hésitez pas à mettre tous les politicards pourris dans le métro des directions Gérard Collomb, si vous voulez les envoyer en enfer. Et sinon, pour nous, ce sera toujours gare de Vaise.
Et on passe tout de suite au bref, après, avec une petite victoire, hein, une fois n'est pas coutume, puisqu'après une petite semaine de grève, les machinistes de l'Opéra Garnier et Bastille ont obtenu une victoire face à leur direction. Ils étaient mobilisés pour demander la reconnaissance du port de charges lourdes et une augmentation de salaire correspondante. Après une représentation sans décor jeudi dernier, les opéras se sont vus contraints d'accéder aux revendications des machinistes, puisque, eh oui, sans ces métiers de prolétaires, pas de spectacle pour les bourgeois. Une belle victoire donc, et ça fait du bien.
Et donc toujours dans les brèves, on va parler donc du blocage de Sciences Po. Donc depuis mercredi 6 décembre, une centaine d'étudiants et d'étudiantes de Sciences Po occupent et bloquent l'école pour dénoncer les violences conjugales de Mathieu Vichera, donc directeur de Sciences Po, à l'égard de sa compagne, et surtout demander sa démission. Donc lui aussi accuse sa femme de violence conjugale, mais quoi qu'il en soit, ce qui est dénoncé par les étudiants et étudiantes qui ont donc bloqué l'école, c'est qu'il est maintenu dans ses fonctions malgré son accusation. Le jeudi 7 décembre, à la mi-journée, donc une partie du blocage a été levée, mais Yale continue à occuper un amphithéâtre depuis. Et aujourd'hui, maigre victoire, Mathias Vichera a, je cite, proposé sa mise en retrait provisoire.
Et avant de passer à notre rubrique internationale, on voulait vous passer une petite musique, puisque hier, Javier Milei, le nouveau président argentin, a pris ses fonctions. Alors, au programme de cette présidence, une véritable guerre de classe, c'est Milei qui l'annonce lui-même, hein. 2 ans de mesures austéritaires sont prévues, avec dévaluation, privatisation, licenciement et mesures réactionnaires en tout genre. Alors, en solidarité avec nos camarades de l'autre côté du Charco, on écoute Mercedes Sosa qui nous chante Hasta la Victoria.
Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril solar. La fe que enciende las hogueras, clamor fundamental, la voz de la justicia, el que a la suave brisa la torna en vendaval. Yo soy Ramón, aquel que nunca morirá, que tiembla el verdugo preso, el buitre insaciable del mar. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Yo soy Ramón, aquel, el oprimido, la carne, sangre y piel del hombre redimido. Yo soy el león que va cruzando la montaña por montes y quebradas, rugiendo libertad. Yo soy Ramón, aquel que vive más allá, que tiembla el verdugo preso, el buitre insaciable del mar. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous êtes à l'écoute du Canus Info du lundi, le Canu Info en mixité choisie sans mec 6 qui a lieu tous les premiers lundis du mois. Vous venez d'écouter Mercedes Sosa, Hasta la Victoria, et on passe tout de suite donc à notre rubrique internationale bien introduite par Mercedes Sosa avec la lecture d'un communiqué du collectif Anticra.
Ça s'appelle communiqué de collectif de lutte contre les CRA et les frontières sur la situation en Palestine et son instrumentalisation par l'État français. En tant que collectif impliqué dans la lutte contre les centres de rétention administrative et les frontières, nous affirmons notre solidarité avec le peuple palestinien et alertons sur la récupération et l'instrumentalisation de la situation actuelle par le gouvernement français.
Pour rappel, les CRA sont un produit direct de la colonisation. En France, c'est dans le contexte de la répression des personnes originaires de ces ex-colonies, à commencer par l'Algérie, qu'ils ont été créés dans leur forme actuelle.
Fidèle à sa politique colonialiste et impérialiste, l'État français exprime son soutien sans faille à l'occupant israélien en Palestine, légitimant ainsi les massacres et déshumanisant les Palestiniens palestiniennes, et réprime toute forme de soutien à la résistante palestinienne en France. Dans le même temps, il accentue sa politique de répression et de criminalisation de toutes les personnes qu'il considère comme illégales sur son territoire, notamment via la loi Darmanin, qui est votée en ce moment même à l'Assemblée nationale, et par tous les discours et mesures racistes, répressives, sécuritaires et islamophobes qui l'accompagnent.
Ainsi, le gouvernement français, avec la complicité des médias, attise encore une fois la haine et la suspicion envers les personnes sans papier, les personnes racisées et les personnes musulmanes, toutes désignées comme des menaces potentielles. Dans sa fabrique de la figure raciste de l'ennemi intérieur, il prétexte l'apologie du terrorisme pour justifier ses mesures de répression, d'enfermement et d'expulsion. La situation actuelle en Palestine lui permet de renforcer encore ses pratiques habituelles, tout en utilisant son arsenal législatif et sécuritaire pour réprimer tout soutien au peuple palestinien. Le gouvernement français a ainsi empêché Mariam Aboudaka, figure féministe, membre du Front populaire de libération de la Palestine, de se rendre en Occitanie le 16 octobre pour son cycle de conférences entamé en France, sous prétexte que ses rencontres étaient susceptibles de susciter de graves troubles à l'ordre public. Elle a ensuite été violemment arrêtée avant d'être expulsée au Caire. Toujours dans le cadre de sa collaboration avec l'occupant israélien, l'État français maintient enfermé depuis 40 ans Georges Ibrahim Abdallah, militant révolutionnaire de la résistance palestinienne, alors même qu'il est libérable depuis 1999. Il est le plus ancien prisonnier politique d'Europe et continue de lutter depuis sa cellule pour la libération du peuple palestinien et contre l'impérialisme.
Plus généralement, si beaucoup de manifestations en soutien à la Palestine ont été interdites et réprimées, ce sont les personnes considérées comme étrangères qui subissent le plus violemment cette criminalisation, notamment sous prétexte d'apologie du terrorisme. La semaine du 20 octobre, trois personnes ont été arrêtées car elles se prenaient en photo devant la Tour Eiffel avec un drapeau palestinien. N'ayant pas de papier français, elles ont été directement envoyées au CRA de Vincennes et l'une d'entre elles a été expulsée à peine quelques jours après. Le 14 novembre, un étudiant s'est vu retirer son droit de séjour pour une inscription contre les bombardements de Gaza sur des panneaux municipaux. Il a reçu obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans. Il a été enfermé au CRA de Rennes en vue de son expulsion.
Plus largement, le durcissement des dispositifs législatifs et policiers qui visent l'immigration en France, et notamment la politique mortifère et raciste de fermeture des frontières sous prétexte de lutter contre le terrorisme, a des conséquences concrètes et dramatiques pour les personnes illégalisées qui vivent ou arrivent en France. Ces mesures ne cessent de tuer, la plupart du temps passant ces morts sous silence, à la frontière, dans les CRA, au travail, dans la rue. Depuis cet été, deux personnes ont été tuées à la frontière franco-italienne après avoir été traquées par la police pendant plusieurs heures dans les montagnes du Briançonnais et au moins 8 personnes sont mortes à la frontière franco-britannique.
Tout cela va être renforcé par la loi Darmanin sur l'immigration. Elle permettra à l'État d'utiliser encore plus délibérément les personnes dont il ne reconnaît pas les papiers comme une main d'œuvre jetable et expulsable à merci, tout en les réduisant à vivre dans la peur, sans droit, sans accès à la santé, sans possibilité de logement décent. Darmanin a également affirmé de nombreuses fois sa volonté d'enfermer toujours plus et d'expulser toujours plus vite. Pour cela, en plus de la simplification des procédures d'expulsion que permet la loi Darmanin, l'État prévoit le doublement du nombre de places en CRA et donc de nombreuses nouvelles constructions.
Il est nécessaire et urgent de combattre cette politique raciste, coloniale et islamophobe aux conséquences mortelles. Face au génocide en cours à Gaza mené par l'occupant israélien avec la complicité de l'État français et des entreprises françaises, nous apportons notre solidarité à la résistance palestinienne et soutenons le peuple palestinien pour la fin des bombardements sur Gaza, la fin du blocus de Gaza, la fin de la politique de colonisation, d'apartheid et de nettoyage ethnique qui dure depuis 75 ans. Vive la Palestine libre! Face à l'impérialisme, au racisme et à l'islamophobie d'État, vivent les luttes internationalistes, décoloniales et antiracistes.
Donc c'est un communiqué des collectifs anti-CRA. On passe tout de suite à notre rubrique nationale et on va parler également de la loi immigration.
Oui, cette fameuse loi immigration dont il est question dans ce communiqué. Donc on fait un petit point sur ce projet de loi de Darmanin qu'il avait présenté une première fois en février 2023 et qu'il avait dû abandonner pendant le mouvement contre la réforme des retraites et qu'il essaye de faire repasser là depuis novembre. Donc déjà cette loi elle est élaborée dans le cadre d'une procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il n'était prévu qu'un seul passage par chambre du Parlement, un passage devant le Sénat, un passage devant l'Assemblée nationale. Le projet de loi est donc déjà passé devant le Sénat et les sénateurs ont voté le 14 novembre 2023 un texte encore plus dur que le projet de loi Darmanin, prévoyant notamment la suppression de l'aide médicale d'État, la création de quotas en matière migratoire, le durcissement des conditions du regroupement familial et de la réunification familiale, une condition de 50 séjours réguliers pour accéder aux allocations familiales et aux APL, la suppression de l'acquisition automatique de la nationalité à 18 ans pour les enfants nés en France et qui y ont vécu depuis, l'augmentation de 5 à 10 ans du délai de résidence régulière en France pour pouvoir faire une demande de naturalisation, la création d'un fichier de mineurs étrangers isolés délinquants, et ceci est une liste non exhaustive, mais une liste illustrative de quelques mesures proposées, donc même votées par le Sénat. Ce texte sénatorial a ensuite été déposé à l'Assemblée nationale et après un travail en commission ces dernières semaines, les débats du texte en séance publique commençaient aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait des manifestations tout l'après-midi à Paris, place Édouard Herriot, contre le projet de loi pour une politique d'accueil et pour la régularisation des sans-papiers. Finalement, cette première séance publique de l'Assemblée nationale a été suspendue en fin d'après-midi après qu'une motion de rejet présentée par le groupe écologiste a été adoptée à 270 voix contre 265. Donc une motion de rejet, c'est quoi ? C'est quelque chose qui vise à faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions de la Constitution et que donc il n'y a pas lieu de se prononcer sur le projet de loi. C'est pas la première fois que des groupes d'opposition présentent des motions de rejet. Il y en a eu par exemple contre la réforme des retraites ou contre celle de l'assurance chômage, mais c'est assez rare qu'elle soit adoptée. Et là, si elle a été adoptée, c'est parce que on a d'un côté l'opposition, on va dire à la gauche de Darmanin, qui ne souhaite pas le vote de ce projet de loi, et l'opposition à la droite de Darmanin qui trouve que finalement c'est encore beaucoup trop laxiste. Donc Darmanin n'aura pas réussi à convaincre effectivement les Républicains, malgré toutes ses tentatives de les rassurer sur l'extrême droitisation de son texte, avec par exemple encore aujourd'hui une longue déclaration sur le fait qu'il ferait
une anaphore.
Oui, une anaphore même, un discours anaphorique. Vous pourrez chercher ce que c'est une anaphore, vous deviendrez plus fort en littérature. Il a fait une longue déclaration anaphorique donc sur le fait qu'il ferait passer la suppression de l'aide médicale d'État par un autre texte, puisque cet amendement proposé par les sénateurs avait déjà été supprimé par les députés en commission. Donc c'était pour dire aux Républicains, rassurez-vous, ce ne sera pas voté à l'Assemblée nationale, mais on le fera passer sous une autre forme. Ça n'a pas suffi et les Républicains, donc une partie d'entre eux en tout cas au moins, ont dû voter la motion de rejet. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant que cette motion de rejet a été adoptée ? Le gouvernement doit soit retirer son texte, soit renvoyer le texte au Sénat, qui ensuite le renverra à l'Assemblée nationale, soit convoquer une commission mixte paritaire chargée de trouver un texte de compromis entre députés et sénateurs. Donc ça, c'est ce que prévoit le règlement des parlements, la Constitution, etc. Et puis, on sait qu'en plus de ça, le gouvernement pourrait aussi éventuellement faire passer ce texte au 49-3, auquel il n'a recours que de manière très exceptionnelle,
oui,
n'est-ce pas ? Donc, la question, voilà, là, c'est un peu le suspense de est-ce que Darmanin va faire passer ce texte au 49-3 et quelle version va passer ?
Donc, le suspense, c'est surtout quand est-ce qu'il va utiliser le 49-3 ?
Ouais, et quelle version du texte va être passée au 49-3, plutôt version sénateur ou plutôt version
Darmanin. Du coup, au national, avant de passer à notre interview, on va revenir sur une petite victoire. Vous le savez sans doute, depuis le 13 septembre, les salariés d'Honnête du CHU de Montpellier étaient en grève. Après 78 jours de lutte, leur grève a pris fin ce 1er décembre avec quelques avancées. Les femmes de ménage réclamaient une augmentation de salaire de 5%. Une prime équivalente à un 13e mois et de meilleures conditions de travail. Pour rappel, le déclencheur de la grève avait été l'imposition d'un dispositif de contrôle complètement aberrant par la société de nettoyage. En effet, Honnête demandait aux travailleuses de scanner un code à chaque bureau nettoyé au CHU, donc avec leur téléphone, à l'entrée et à la sortie de la salle. Après presque 3 mois de grève, les travailleuses ont obtenu le recul d'Honnête sur ce dispositif de contrôle salle par salle. Sur les revendications salariales, c'est un peu plus mitigé, puisqu'elles ont obtenu une prime exceptionnelle de 650 euros, mais au prorata des heures effectuées en décembre, donc réduite pour celles qui sont en temps partiel, et c'est souvent le cas pour les travailleuses du ménage. Elles réclamaient, je le rappelle, une augmentation de salaire de 5%. Honnête, c'est une entreprise qui a fait 36 millions d'euros de bénéfices en 2021. Mais bon, voilà, une nouvelle fois, c'est une grève qui nous montre la détermination des travailleuses précaires à faire entendre leur voix et imposer leurs droits face à un patronat qui veut toujours plus de contrôle sur celles et ceux qui l'exploitent.
Et on continue au national avec une petite interview sur la mobilisation des lycées professionnels, puisque demain, il y a une journée de mobilisation nationale prévue. Donc on a invité Naslata, qui est professeure en lycée pro et à la CGT Éduc. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer contre quoi est cette mobilisation, puisqu'il s'agit d'une énième réforme des lycées pro? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est?
Oui, en effet, on va subir une deuxième réforme du lycée pro sous Macron. On a eu une première en 2019 qui a fait déjà beaucoup de dégâts. On a vu nos heures disciplinaires, c'est-à-dire d'enseignement, de français, de maths, de vente, matières professionnelles comme générales, bien réduites par cette première réforme. Et là, le gouvernement de Macron veut mettre en place une deuxième réforme qui réduirait encore plus et les heures et la formation des élèves, en ajoutant des semaines de stage gratifiés, qui serait juste un moyen d'avoir des élèves qui seraient exploitables par les entreprises qui ne gratifieront pas ces élèves. C'est le gouvernement qui gratifie. Cette réforme, elle se fait en deux étapes. Il y a d'abord eu l'étape du pacte. Le pacte, c'est la petite carotte proposée par le gouvernement concernant les rémunérations des professeurs, qui depuis 20 ans se battent pour une amélioration de leur niveau de vie, avec le point qui est gelé depuis un moment. Donc le gouvernement a proposé au lycée pro un pacte qui est rémunéré mais désocialisé, et pour lequel les professeurs ne payent pas d'impôts. Donc c'est des primes, c'est pas une revalorisation du salaire, c'est juste une prime, mais c'est une prime pour du travail en plus, toujours plus par rapport à tout ce qu'on fait déjà. C'est aussi un moyen de gérer les absences des professeurs, mais en fait quand on regarde sur la pratique, c'est plus de la garderie que des vrais enseignements, parce que c'est un peu difficile de proposer un vrai cours quand on vous dit pour la veille pour le lendemain, ben, tu vas remplacer quelqu'un à 8h. Donc il y a d'abord eu cette étape-là qui, en plus, a divisé quand même les équipes, parce que le pacte, il est proposé aux volontaires, mais il met en place un lien de subordination entre ceux qui signent le pacte et les directions, qui sont celles qui valident les missions et qui du coup vont valider le paiement des pactes. Ce qui fait que du coup on a des professeurs qui sont point liés à leur direction, parce que s'ils font pas les missions, ils ne sont pas rémunérés. Et puis il y a aussi le problème de l'annualisation avec le pacte, parce que quid de ceux qui n'auront pas fini leur mission dans l'année scolaire, est-ce qu'ils vont devoir aussi continuer ces missions pendant les vacances scolaires? Donc ça, c'est la première étape de la réforme du lycée pro de Grandjean. Et la deuxième étape, c'est la gratification des stages, qui est prise en charge par l'État et pas par les entreprises. Donc les entreprises vont voir une main-d'œuvre facile à manier, à exploiter. Et en plus, plus longtemps, parce que ce qui est proposé par l'État, c'est rajouter 6 semaines de stage aux élèves. Donc, réduire 6 semaines aussi d'enseignement, de formation théorique, mais aussi d'ouverture d'esprit vers par le biais des enseignements. C'est aussi cette deuxième étape, c'est aussi la disparition et la création des familles de métiers en fonction de la situation locale. Donc, les lycées proposeront des formations en fonction des entreprises locales. Et ça va aussi, de ce fait, créer une dépendance aux entreprises qui est déjà assez importante avec les stages. Et puis, il y a aussi une grosse problématique dans cette proposition. C'est une problématique organisationnelle parce que... et ça montre quand même à quel point le gouvernement n'a aucune connaissance du lycée pro et ne se préoccupe pas du lycée pro. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste proposer encore plus de main-d'œuvre. Et puis c'est tout, parce qu'en fait, quand on regarde au niveau de l'organisation, les secondes et les premières partent généralement tous en stage mai-juin. Et si le gouvernement rajoute ces 6 semaines de stage en plus, c'est plutôt justement mai-juin. Donc on a les terminales, les premières, les secondes et les 2 années de CAP qui partiraient en stage en même temps. On a déjà beaucoup de mal à placer les élèves dans des stages formateurs. Et si derrière on rajoute encore des candidats et candidates, ça va être très compliqué. Ça va être juste des élèves qui, par exemple, pour le bac pro-vente, feront juste de la mise en rayon. Pour le bac pro ASSP, feront les tâches que les aides-soignantes ne pourront pas faire parce que y a un besoin aussi. Et en fait, la problématique, c'est que le gouvernement n'écoute pas les professeurs. Et agit juste la carotte de la gratification, parce que les élèves auront le choix entre le stage et la préparation pour le post-bac. Mais on est dans une formation, le lycée pro, qui concerne beaucoup, dans beaucoup de formations, dans les formations tertiaires par exemple, dans les formations du primaire. C'est souvent des élèves qui viennent de milieux défavorisés et pour qui les stages gratifiés, c'est un peu une aubaine pour eux, parce que ça veut dire de l'argent, ça veut dire une petite aide pour telle ou telle chose. Et ils et elles ne choisiront majoritairement pas la formation pour le post-bac. Ils choisiront plutôt l'argent parce qu'il y a un besoin. Donc en fait, le problème de la réforme de Grandjean, c'est de proposer juste de la main d'œuvre, mais de pas solutionner les problèmes de départ. C'est-à-dire que nous récupérons au lycée des jeunes qui sont malmenés par le système scolaire, par le collège, par la primaire, parce que le rapport PISA l'a dit là, il n'y a pas longtemps, la France est un des pays européens où les classes sont les plus surchargées. Et ça, c'est un gros problème, parce que quand on a des élèves qui sont en grande difficulté et qui n'ont pas à la maison des personnes qui peuvent les aider à pallier ces difficultés, les inégalités scolaires augmentent. Parce que on a des inégalités sociales qui sont très importantes en France et qui ne peuvent pas être gérées par l'école, parce que c'est pas complètement notre rôle, et le gouvernement s'en décharge complètement.
Ouais, du coup le gouvernement préfère financer aux entreprises les heures de stage, puisque tu me disais donc tout à l'heure que c'est gratifié et c'est le gouvernement qui finance cette gratification aux élèves et non pas les entreprises. Donc voilà, plutôt donner des sous aux entreprises pour faire travailler une main d'œuvre jeune et assez malléable, plutôt que financer réduction des effectifs dans les classes et des moyens pour l'éducation nationale, quoi.
Exactement. Alors le gouvernement ne donne pas dans ce cas-là de sous aux entreprises. Après, on sait que elle aime bien donner des sous aux entreprises, mais dans ce cas-là, c'est plutôt aux élèves qui donnent les sous. C'est 50 euros par semaine pour les secondes et les premières années de CAP, 75 euros par semaine pour les premières et les deuxièmes années de CAP, et 100 euros par semaine pour les terminales. Tout ça, c'est financé par l'État, c'est financé par le gouvernement. Plutôt que de mettre de l'argent dans le dédoublement des classes, plutôt que de mettre des moyens dans le matériel, parce qu'il y a des établissements qui sont dans des états assez catastrophiques, plutôt que de proposer peut-être du matériel même scolaire pour les élèves, par exemple, alors j'ai une idée toute bête, mais une tablette, bon, c'est pas ça qui va régler les soucis, mais plutôt que de mettre les moyens dans le pédagogique, le gouvernement choisit plutôt de donner, de gratifier ses élèves pour les inciter au final à faire ces stages. En fait, l'objectif, c'est de dire, c'est la petite carotte pour les élèves pour dire, ben regarde, tu as de l'argent pendant que tu fais tes stages, continue à faire tes stages, vas-y, pars en entreprise. Et l'entreprise, elle est bien contente parce qu'elle aura quand même quelqu'un qui pourra faire les petites tâches qui peuvent être embêtantes à faire, qui sont pas toujours faites parce que il y a personne. Mais quand on regarde, en fait, en pratique, 50 euros par semaine pour un élève, c'est 1,40 € de l'heure. Donc en fait, la gratification, c'est proposer à un élève, à un ou une élève, de faire un vrai travail. C'est 35 heures un stage par semaine, hein. Ce sont pas des stages d'observation, ce sont pas des stages de 20 heures, c'est 35 heures de travail payé 1,40 € pour les moins bien gratifiés et 2,40 € pour les mieux gratifiés. C'est quand même assez extraordinaire de se dire, ben, on va envoyer des gamins et des gamines de 15 ans travailler pour ça, quoi. Enfin, et puis inciter le prolétariat, en fait, les plus défavorisés, à juste travailler et faire des métiers les moins attirants, entre guillemets. Alors, j'aime pas trop le terme. C'est pas ça que je voulais dire. Mais bon, voilà.
Ok, et du coup, cette histoire de famille, de métier, c'est aussi ça, donc adapter complètement l'éducation du pro, enfin l'enseignement professionnel, pardon, aux besoins du tissu patronal local, quoi.
Exactement. Et ça, on peut le voir déjà aussi sur le fait que le lycée professionnel, il est sous la coupe du ministère du Travail. Grandjean, elle dépend du ministère du Travail, même si elle travaille avec l'éducation nationale. Ça montre quand même cette idée que le lycée pro, il n'est pas là dans la vision du gouvernement Macron, dans la vision d'Attal, dans la vision de ce gouvernement. Le lycée pro, il n'est pas là pour éduquer, il n'est pas là pour apporter des connaissances, pour former des citoyens et des citoyennes, pour former les jeunes qui vont arriver, mais pour produire des travailleuses et des travailleurs, produire des employés qui seront malléables et qui seront dépendants du patronat. Parce que il y avait cette menace aussi de supprimer des filières, des familles de métiers, parce que elles seraient pas, ces filières-là ne seraient pas assez employables. On parlait par exemple du bac pro accueil, du bac pro vente, du bac pro commerce. Ces bac pro, ils donnent accès à des BTS qui existent encore et qui sont et qui mènent à des corps de métier très variés. Et en fait, quand on a un gouvernement qui dit ah mais non, mais ces bac pro ils sont pas assez employables, alors déjà c'est qu'ils comprennent pas forcément ce que font les enseignants et les enseignantes dans ces filières-là, qui ne savent pas ce que les élèves apprennent, qui ne savent pas pourquoi ils sont formés, parce que du coup, c'est quand même des filières qui sont nécessaires. Le bac pro-vente, alors ce n'est pas le bac pro-vente, du coup, c'est le bac pro métier commercial, pour être commercial, bah, ça forme des commerciaux. Et des commerciales, donc du coup c'est des métiers, ben, merci le capitalisme, qui disparaîtront pas. Il y a des formations qui sont dites rares. Et si on dépend du tissu patronal, du tissu des entreprises locales, ben elles n'existeront plus. Moi, dans mon établissement, par exemple, on a les métiers du cuir. Le tissu patronal fait qu'il y a Hermès pas très loin. Mais Hermès est en train de créer son propre CFA. Du coup, en fait, Hermès, le bac pro de notre établissement, il n'en a pas grand-chose à faire. Si on dépend de ça, ben ce bac pro, il disparaît. Et c'est le cas de plein de familles de métiers comme ça, où en fait, localement, on aura une inégalité. Ça veut dire que du coup, les élèves, vous avez une ou un élève qui, depuis tout petit ou tout petite, il et elle veut devenir, je vais pas dire aide-soignante parce que c'est pas ça qui va disparaître, mais tanneur ou maroquinier, ou maroquinière, tanneuse. Il est dans un secteur où il n'y a pas du tout de ce corps de métier, il pourra pas, il et elle ne pourra pas. Et ça, c'est un peu le risque de cette réforme du lycée pro, c'est que le local importera plus que le national, que le régional, que la formation de l'élève. En plus, il faut juste savoir que les élèves du lycée pro, pour beaucoup, arrivent au lycée pro contraints et contraintes. Donc si en plus on ne peut pas leur donner le choix de
la formation,
de la formation faire, qui les attirait le plus, on aura des élèves qui seront encore plus désabusés.
Ok, et du coup, face à cette donc deuxième étape de deuxième réforme, il y a une mobilisation qui se prépare avec une date nationale demain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui est prévu et comment tu le sens au niveau, à tous les niveaux de ton établissement national, au niveau de Lyon peut-être ?
Alors oui, c'est la première date depuis au moins un an d'une grève nationale pour les lycées pro et exclusivement pour les lycées pro. Après, certains établissements du général, certains collègues du général, par solidarité, se joignent aussi au mouvement, mais c'est un mouvement du lycée pro, donc qui a lieu demain. Au niveau de Lyon, la manifestation partira de la place de la République à 12h30. Au niveau des établissements, c'est un petit peu mitigé. Alors, il y a des établissements qui se mobilisent énormément, comme Picasso à Givor, comme Jacquard. Mais il y a aussi, il faut prendre en compte le fait que beaucoup de collègues sont plutôt désabusés. Et fracassés par le système, par un gouvernement qui n'écoute pas déjà ses députés. On parlait de 49-3 tout à l'heure. On peut en parler aussi ici. On sait que les députés ne sont pas écoutés. Alors du coup, les collègues se disent, mais à notre niveau, personne ne va nous écouter. Moi, j'ai entendu quelques collègues dire, de toute façon, je vais juste perdre de l'argent, on ne va jamais nous écouter, ça ne va rien changer. Une grève, une journée de grève. Après, une lutte, ça se construit. Une journée, c'est court. Mais ça, c'est fait pour aller plus loin. L'idée, c'est de ne pas rester à juste une journée de grève, c'est de construire une lutte, de construire un discours, de construire un combat, parce qu'il ne faut pas que passe cette loi, parce que cette réforme, parce qu'on passerait d'un bac pro qui était à 3 ans en 2009, qui est passé à 2 ans et demi en 2019, et là qui passerait dans la pratique à 2 ans. Et du coup, c'est des élèves qui ne seront pas vraiment formés, mais qui seront juste là pour être de la main d'œuvre.
Ok, et ben on appelle toutes celles qui peuvent aller soutenir les professionnels des lycées professionnels mobilisés demain à la manifestation à 12h30, place de la République. Merci.
Merci.
Et avant de passer à notre prochaine interview, on écoute rapidement Kazé. On va pas mettre la chanson en entier parce qu'on est super à la bourre. Et on revient tout de suite après pour notre rubrique locale.
Thank you. La sécurité des lieux n'est pas certaine. Je crame, je brûle, je hurle, je gueule. Je traîne en ville en bande ou même déambule seul. J'ai un rôle colossal à la cave et au sous-sol. Je recherche l'étincelle mais j'ai paumé ma boussole. Alors je bois, je fume, je noie ma flemme. Je crois aux flammes, j'acclame la haine. Mes larmes et mes peines n'impressionnent personne. Et on me traite de hyène sur toutes les ondes hertziennes. On se moque de mes œdèmes et de mes états d'âme. Tout m'ordonne en fait de ne pas vivre à l'état d'homme. Et moi que l'on nomme l'individu bas de gamme, qu'on me dégomme sur le macadam serait le minimum. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La hargne est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et je ne m'entends pas du tout.
Mais pourtant, nous, on t'entend très bien.
Mais ça y est, je m'entends, tout va mieux, c'est beaucoup moins bizarre. Et donc, vous êtes toujours sur Radio Canu, on est sur le Canus Info du 11 décembre 2023 et on passe tout de suite à la rubrique locale.
Avec un petit sujet sur la Fête des Lumières.
Oui, c'est ça. Ce week-end, c'était la tant attendue Fête des Lumières à Lyon, où la ville se transforme en vitrine de la métropolisation pendant 4 jours, où il devient impossible de se déplacer en transport pour les habitants et habitantes, voyant donc une exode de tous les gauchos de la métropole. Et donc, c'est à cette occasion que les soulèvements de la terre ont illuminé la ville à leur manière pour dénoncer l'industrie du béton, plus précisément le groupe Lafarge, connu pour ses industries polluantes à Fos-sur-Mer, et pour avoir financé notamment Daesh en Syrie. Donc on a pu voir à certains endroits de la ville des slogans enluminés dénonçant Lafarge, Daesh égale cœur ou encore laisse béton. Et donc cette action contre l'industrie du béton lors de la Fête des Lumières s'inscrit plus largement dans une campagne contre le cimentier portée par une coalition de 150 collectifs et luttes. Le mot d'ordre donc dénoncer la fabrication de ce matériau polluant qui demande un coût énergétique et humain considérable. D'autres actions se sont déroulées pendant le week-end dans toute la France comme l'envahissement de la centrale béton de Val-de-Reuil. Pardon pour la prononciation, dans l'heure. Et il y a aussi 6 personnes qui ont été interpellées par les forces de l'ordre ce matin même en tentant d'approcher une usine de béton Lafarge à Nantes. Donc les soulèvements de la terre et les autres collectifs appellent déjà à du soutien et on suivra cette affaire de près et soutien aux interpellés. Donc voilà, en tout cas, après cette petite chronique, on passe de suite à l'interview avec le collectif Hébergement en danger.
Oui, alors toujours au local, hein, on sait que la situation en matière de logement dans la métropole est particulièrement problématique. Au dernier Canus Info, il y a un mois, on avait accueilli le collectif Solidarité entre femmes qui occupait le CCVA. L'occupation est d'ailleurs toujours en cours. On accueille aujourd'hui Laura qui est travailleuse sociale et qui milite au sein du collectif Hébergement d'Angers. Merci Laura d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plusieurs semaines que le collectif Hébergement d'Angers alerte sur la situation lyonnaise. Est-ce que tu peux nous faire un rapide état des lieux ?
Oui, bonjour déjà. Actuellement, à Lyon, on est à 14 000 personnes en attente d'un hébergement ou d'un logement. Donc c'est un niveau de saturation inédit des places d'hébergement d'urgence et on en arrive à des logiques de tri inhumaines en fait. Juste pour reprendre un petit peu l'historique, faut savoir que Hébergement en danger s'est monté en collectif en 2018 parce qu'à l'époque, le constat qu'on faisait en tant que professionnel de l'urgence sociale et de l'hébergement, c'est qu'il y avait 6 000 personnes qui étaient en attente de places d'hébergement. En 2018, il y avait la disparition de certaines places d'urgence qui étaient annoncées, transformation des places, alors urgence, insertion, peut-être qu'il faut que j'explique un petit peu.
Vas-y, ouais, tu peux.
Du coup, sur les demandes d'hébergement, en fait, aujourd'hui, rentrent en place d'urgence les personnes qui sont en situation irrégulière ou en cours de régularisation. On appelle ça de l'accueil inconditionnel. Voilà, donc il y a un nombre de places qui est alloué pour les personnes en situation inconditionnel et un nombre de personnes, de places pour les personnes en insertion. Et en fait, plus le temps passe et plus le nombre de places en insertion devient plus important que les places d'urgence. À l'époque, en fait, du coup, le collectif s'est monté pour créer un communiqué et pour rassembler autour de ces transformations de place-là. Et avait été aussi parlé et mis en place, en fait, des contrats d'hébergement qui étaient plus courts. C'était, en fait, on demandait aux personnes de signer des contrats de 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, en fait, les critères de vulnérabilité étaient revus et étaient évalués par des travailleurs sociaux, sociaux. Et si les personnes ne rentraient plus dans ces critères-là, du coup, il y avait une fin d'hébergement. Du coup, c'était complètement, en fait, hors la loi. Donc, le collectif a porté cette voie-là et a été reçu, du coup, en délégation par la préfecture et la DDETS, du coup, service de l'État qui s'occupe de l'hébergement. Et donc, c'était quand même une petite victoire, voilà, en 2019, parce que suite à ça et suite aussi à la couverture médiatique, le ministre de l'époque avait demandé à la préfecture de revenir en arrière sur cette question-là, parce qu'on était en effet dans l'illégalité. Peut-être juste sur la question historique aussi, on a pu rencontrer en fait un ancien collectif qui a été monté en 2009, c'était le collectif PUS, professionnel de l'urgence sociale, et qui a pu nous expliquer qu'en fait en 2010, il y avait 100 personnes en demande en fait, d'hébergement et qu'il n'y avait pas de réponse. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que quand on dit saturation inédite, c'est que là on est à 14 000 personnes.
C'est énorme.
Voilà.
Ok, du coup vous appelez à une grève et à une manif le 14 décembre. Est-ce que tu peux revenir un peu sur vos revendications et sur ce qui va se passer dans cette journée ?
Oui, donc on appelle à une grève, à une manifestation, du coup, à l'ensemble des collègues professionnels de l'urgence sociale, de l'hébergement, professionnels de la métropole, des hôpitaux. Puis on appelle aussi, en fait, tous les citoyens et le collectif, tous les collectifs, en fait, qui sont touchés par cette question-là, parce que, en fait, faut bien savoir que, on est toutes et tous concernés, hein. On voit les personnes dehors et en difficulté. Donc du coup c'est en effet à 14h rassemblement à la métropole de Lyon, 20 rue du Lac, jeudi 14 décembre, avec une manifestation qui se terminera vraisemblablement sur les quais, vers la préfecture.
Et du coup vos revendications.
Et les revendications. Donc en fait nous les revendications, donc c'est le collectif Hébergement en danger demande la création d'ici la fin de l'année 2023, pour Noël quoi, petit cadeau, de 2000 places d'hébergement d'urgence pour répondre à cette crise inédite. Un plan d'urgence pour faire face à la crise et la pénurie d'hébergement qui associerait les associations et les travailleuses sociales et travailleurs sociaux de terrain. La réquisition des logements vacants, sachant qu'il y en a 53 000 sur Lyon, selon l'INSEE.
Donc beaucoup plus que de demandes, finalement.
C'est ça. Finalement, oui, les comptes, ce serait assez simple, hein, ce serait plus facile. L'arrêt immédiat des expulsions, ainsi que des remises à la rue d'hébergement, qui est quand même très important aussi, hein, parce qu'en trêve hivernale, là aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Enfin, tu as évoqué le collectif Solidarité Femmes à la rue, hein, qui elles ont pu médiatiser aussi toutes les fins de prise en charge hôtel par la métropole, les remises à la rue, et avec des enfants très jeunes, on pourra peut-être y revenir après. Du coup, on demande aussi un effort significatif en matière de production de logements accessibles, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la réponse d'une préfète, de la préfète, c'est justement de proposer plus de logements, mais c'est un peu une réponse qui est hors sol, hein, parce que le dispositif d'hébergement d'urgence, il atteint un niveau de saturation inédit, je le redis, 14 000 personnes en attente et d'hébergement ou de logement, hein, parce qu'en fait, c'est pas simplement des personnes qui n'ont pas de papier, on pourrait croire que ce serait plus simple, mais c'est pas le cas. Et là, face à cette crise sans précédent, en fait, les associations ont interpellé la métropole et la préfète de région. Et cette dernière a répondu que des places se libéreraient par des accès au logement et qu'elle n'avait donc pas l'intention d'en créer davantage, ni de créer davantage de places d'hébergement, j'entends.
C'est une fin de non-recevoir totale, finalement, quoi.
Oui, et puis ça, en fait, ça décale le débat et ça est complètement erroné, finalement, parce que c'est pas du tout la réalité, hein. En fait, lorsque tous les indicateurs de production de logements sont à la baisse, lorsque le délai moyen d'obtention d'un logement social est plus de 2 ans dans le Rhône, cette réponse, en effet, elle est en déconnexion totale avec la réalité et l'urgence à agir. Voilà, et du coup, quand même, demande de la régularisation de papier pour toutes et tous.
Alors, tu nous as parlé un peu de l'historique du collectif dont tu fais partie. En tant que travailleuse sociale, pour toi, en quoi votre rôle est essentiel aussi dans ces mobilisations et quels sont vos leviers en tant que travailleur face aux politiques préfectorales ?
Bah, du coup, moi, par exemple, je suis assistante de service social. Beaucoup de collègues sont aussi assistantes de service social, éducateurs spécialisés, enfin voilà, professionnels de l'urgence. Et en fait, nous, on fonctionne avec la loi, hein, parce que c'est un peu notre référence. On est là pour accompagner les gens à l'accès aux droits. Donc, l'accès aux droits, c'est quand même les textes de loi. Il y a quand même l'article 345.2.2 du Code de l'action sociale et des familles qui dit que toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantisse la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier des prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène. Une première évaluation médicale, psychique et sociale doit être réalisée au sein de la structure d'hébergement ou par convention par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement de foyer, un établissement, personne âgée et dépendante, enfin une structure adaptée à la problématique de la personne, quoi.
En somme, c'est l'État qui ne respecte pas ses propres lois, finalement, ses propres prérogatives.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez d'autres... Donc là, on a parlé de la mobilisation du 14. Est-ce qu'il y a d'autres échéances de mobilisation après cette date de grève et de manif? On rappellera le rendez-vous tout à l'heure. Et comment vous envisagez un peu la suite de la lutte et comment on peut vous suivre aussi pour vous rejoindre et éventuellement pour vous donner un coup de main?
Oui. Alors en fait, du coup, là, le 14, on a demandé à être reçu en délégation à la métropole d'une part et à la préfecture. Donc la métropole, on a un rendez-vous de prévu, on attend toujours la réponse de la préfecture, mais on imagine bien qu'ils vont nous répondre. L'idée, c'est de faire le plus de bruit possible, de demander justement, d'énoncer nos revendications. On va être optimiste et on va se dire qu'il y aura ces 2000 places avant la fin de l'année, mais ce ne sera évidemment pas suffisant. L'idée, c'est que ça soit aussi un plan national qui soit mis en place, hein, qu'on réponde à la crise qu'on vit actuellement, qui est sans précédent. On va aussi proposer en fait à tous les collectifs qui aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de les citer quand même, hein, parce que aujourd'hui à Lyon et alentour participent vraiment à l'effort collectif, à visibiliser justement les difficultés que vivent les personnes à la rue, les femmes enceintes, les femmes avec enfants, des jeunes bébés de 28 jours qui se retrouvent dehors dans le froid. En fait, nous, en tant que travailleurs sociaux, on ne veut pas en fait faire partie de cette machine qui broie, qui exclut et qui tue. En fait, là, on se dit peut-être que cet hiver, on va faire partie des personnes qui vont trier et qui vont décider en fait qui reste sur le carreau, qui va mourir cet hiver, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là, peut-être qu'on va se dire, il faut bouger, il faut attendre qu'il y ait un drame pour faire quelque chose. Bah ça, nous, en fait, on est témoins. Et on est témoins, on n'a pas le choix, mais juste, en fait, on va dénoncer. Parce que c'est aussi notre rôle. Donc, suite à ça, si on fait le plus de bruit possible, c'est l'intérêt. On va demander, justement, au collectif, au soutien, de nous rejoindre.
On peut les citer, le collectif Jamais Sans Toi, qui se mobilise pour les enfants dans les écoles. Il y a le collectif Solidarité Entre Femmes à la Rue. Il y a des grosses mobilisations en ce moment, qu'on vous invite à suivre. Il y a des rendez-vous toute la semaine, par exemple, de ces différents collectifs, parce qu'il y a des situations individuelles qui sont absolument dramatiques.
Il y en a d'autres aussi. Hein. Nous, on a le soutien là, sur le communiqué de coordination urgence migrants, le droit au logement, les indignés du social, l'intersquad 69, Jamais Sans Toi, tu l'as cité, et Solidarité Femmes à la Rue, et la Toile aussi, hein, qui nous a soutenus sur cette question-là. Voilà. L'idée, c'est de se rassembler déjà ce jeudi-là, et ensuite, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'être en plus grand nombre en se rassemblant. Par la suite, on proposera dès la semaine suivante une assemblée pour être le plus nombreuses et nombreux possible sur cette question-là.
Donc, je le rappelle, hein, le rendez-vous, c'est 14h ce jeudi 14 décembre devant la métropole du Lyon qui se situe donc rue du Lac. C'est juste à côté de la Part-Dieu. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Comment on connaît les prochaines dates de mobilisation pour celles et ceux qui ne seraient pas disponibles ce jeudi?
Alors, sur les réseaux sociaux, donc, on a une page Instagram, donc Collectif Hébergement en Danger, sur Facebook également, et même sur X, voilà, donc Collectif Hébergement en Danger. Puis il y a l'adresse mail aussi, il ne faut pas hésiter s'il y a des questions ou des témoignages aussi, hein, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu témoigner jusqu'à présent, mais des collègues qui ont des choses à dire, à dénoncer. Donc c'est collectifhébergementendanger@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. Juste, j'ai quand même un petit truc
vas-y,
ajouter,
je t'en prie.
Une petite image en fait qui nous est venue là cette semaine, et c'est vrai que je trouve que c'est assez parlant. Aujourd'hui, tu me demandais en tant que travailleur sociaux, comment est-ce que nous on peut répondre à ça, enfin dans quoi ça nous met, comment ça nous met en difficulté. C'est qu'en fait, il faut bien imaginer que les places d'hébergement, les orientations en logement, c'est notre outil en fait pour accompagner les personnes et pour les aider, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait ce métier-là. Il faut imaginer qu'en fait, ce seraient des docteurs, des infirmières, des infirmiers qui sont à l'hôpital et qu'en fait, ils n'ont pas de médicaments, qui ne peuvent pas répondre à la douleur de la personne parce qu'ils n'ont pas les outils. Bah, nous, c'est exactement pareil, et les conséquences peuvent être dramatiques aussi, quoi. On peut laisser un enfant de 28 jours dehors aujourd'hui à Lyon par ce froid.
Oui, en effet, on l'a vu aussi avec le collectif Solidarité entre femmes, qu'on vous invite à lire leur dernier communiqué que vous pouvez trouver sur Rébellion, et qui fait état des propositions indécentes de la métropole pour l'hébergement, notamment d'un très très jeune bébé. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va essayer rapidement de faire un petit agenda de la semaine. Demain, mardi, il y a
Grève des lycées professionnels.
Voilà, la grève des lycées pro. Puis le soir, vous pouvez aller à l'Amicale du Futur pour un atelier d'autodéfense en cas d'expulsion. Ça fait partie du cycle Lyon Info Migration, qui fait régulièrement ce genre de petit atelier.
Oui, c'est un atelier d'autodéfense sur tout ce qui est interpellation et placement en rétention administrative.
Il y a ensuite le jeudi 14 décembre, on l'a dit, la mobilisation à 14h, la manifestation est rendez-vous à 14h devant la métropole de Lyon, rue du Lac. Il y aura également des conférences, débats proposés par Table Rase à l'espace communal de la Guillotière avec Mickaël Provost, qui viendra nous parler de marxisme et d'oppression des femmes. Qui viendra nous parler de racisme et de sexisme, pardon. Ensuite, il y a beaucoup de choses jeudi. On vous invite à aller voir sur Rébellion, car on doit bientôt rendre l'antenne. Vendredi 15 décembre, on en a parlé tout à l'heure, il y a un rassemblement pour les enfants sans toit. C'est devant l'école Giono dans le 8e, c'est à 17h. Donc vendredi 15 décembre, le soir après ça, vous pouvez aller à une belle fête en hommage à la fanfare à Manif qui nous a accompagnés pendant toute la mobilisation contre la réforme des retraites. Ça se passe au Toy Toy Le Zinc à Villeurbanne.
Et c'est d'ailleurs une préparation à un événement pour la fin de la trêve hivernale.
Ouais, donc en soutien aussi au collectif sur le logement et sur le droit au logement.
Oui, on a été invités.
Et samedi, il y a une soirée en soutien et une personne blessée mutilée par la police. Ça se passe à l'Illégalité à partir de 18h30. L'Illégalité, on le rappelle, 6 rue de l'Illégalité à Villeurbanne, métro QC.
Et pour l'agenda, il y a aussi lundi prochain, même si on sait que vous écouterez sûrement le Canu Info du lundi, vous pouvez l'écouter tout en allant à la manifestation contre la loi Darmanin, qui aura lieu à 18h30, lundi 18 décembre, place Bellecour.
Et quant à nous, on vous dit à dans un mois pour le Canus Info en mixité choisi sans mexis, tous les premiers lundis du mois. Tous les deuxièmes lundis du mois, d'ailleurs, n'importe quoi. Donc, je ne sais pas quel jour ce sera.
Pas sûrement le 11, le 12.
En tout cas, ce sera en 2024. On vous souhaite une belle fin d'année.
Et vous êtes donc toujours sur Radio Canu 102.2. On vient de s'écouter dans l'ordre Taylor Swift. Oui, vous ne rêvez pas avec Out of